Il est l'heure de retrouver Bruno et l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, il y aura deux thèmes importants. On va faire un point sur les états généraux de la bande dessinée qui lance une nouvelle enquête. Ça a été fait il y a 3 semaines, il reste encore 3 semaines. Nous serons donc avec Denis Bajram, un des auteurs à l'initiative de ces états généraux de la bande dessinée. Et il avait fait partie des initiateurs de la première enquête en 2015. Le deuxième point, c'est un hommage à Gwenaël Manac, l'auteur des Pierres de famille. Il est décédé il est décédé le 14 septembre. Son livre avait été publié en février 2023. Il était d'ailleurs en direct sur l'antenne de Radio Escapade. Et donc l'évocation de ses processus de création sur son livre « Les pierres de famille » était très riche, très dense. Et donc je souhaite rediffuser cet entretien pour lui rendre hommage. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de ces états généraux de la bande dessinée, et notamment par l'apport énorme que cette première enquête faite en 2015 a permis de comprendre quelle était la situation des auteurs et des autrices de bande dessinée. Cette situation, historiquement, c'est la solitude. Peu de collectifs pour défendre ce statut des auteurs et autrices de bande dessinée. Même lorsque la presse jouait un rôle important dans les publications de la bande dessinée, on a tous en tête des journaux comme Tintin, comme Pilote, comme Spirou, et qui faisaient que les auteurs, par exemple, avaient une carte de presse parce qu'ils prépubliaient dans des revues comme celle que je viens de citer. Et donc, ça, c'était le bon côté des choses. Alors maintenant, il y a beaucoup moins de revues, donc plus cette défense que les auteurs pouvaient avoir grâce à leur carte de presse. D'autre part, il y a ce travail solitaire des auteurs de bande dessinée. La plupart travaillent chez eux et n'ont donc pas du tout ces connexions possibles qu'on peut avoir, par exemple, dans le cinéma ou sur le théâtre, où d'emblée, on sait qu'il va y avoir d'autres partenaires. Sur la bande dessinée, c'est beaucoup plus délicat. Et donc, en 2015, des auteurs, dont Denis Bajram, ont souhaité créer ces états généraux pour qu'on ait un état des lieux qui soit précis, et pratiquement 1500 auteurs avaient répondu à cette enquête avec des données qui étaient tout à fait exploitables. Elles sont, cette enquête de 2015 est disponible sur le site des états généraux de la bande dessinée. Donc, étape essentielle avec cette création et le lancement de cette enquête et les résultats obtenus. En 2025, 10 ans après, où en est-on? Une nouvelle enquête est lancée et sur la page Facebook de Denis Bajram, on peut entendre son appel à des réponses des auteurs, et c'est maintenant.
Chers confrères et consœurs, nous avons un problème. En effet, les états généraux de la bande dessinée ont relancé leur enquête auteur il y a maintenant 3 semaines, mais pour l'instant, nous n'avons atteint qu'un peu plus du tiers de nos objectifs de réponse. C'est très problématique. Hélas, nous nous y étions un peu préparés, car nous savons bien que beaucoup d'auteurs et d'autrices sont démobilisés. Déjà parce que la crise qui touche la plupart d'entre nous est très dure. Ensuite, parce que nous sommes beaucoup à avoir perdu une partie de nos illusions sur la lutte sociale. Prenons par exemple le rapport Racine, résultat de l'engagement de nos états généraux de la BD et d'autres organisations d'auteurs, un rapport qui avait suscité beaucoup d'espoir. En ne suivant pas ces conclusions, les pouvoirs publics ont clairement donné l'impression de nous abandonner, hélas. Mais accepter cela, se résigner à notre sort, ce serait la pire des idées. Soyons clairs, répondre à l'enquête auteur des EGPD n'a pas pour but direct de gagner des combats. Le premier but est de nous connaître nous-mêmes, nous les auteurs et les autrices. Dans cette période complexe, c'est important de pouvoir séparer ce qui est du domaine structurel de ce qui dépend de chacun d'entre nous. Et surtout, en comparant les résultats à ceux d'il y a 10 ans, nous allons pouvoir étudier les évolutions sur le temps long, et même en déduire les tendances pour notre avenir. En particulier si rien ne devait changer, hélas. Espérons que ces résultats décideront enfin les pouvoirs publics à protéger réellement le futur des auteurs et des autrices. Attention, si vous n'êtes pas assez nombreux à répondre à l'enquête, certains en profiteront pour en dénigrer les conclusions, soyez-en sûrs. C'est donc vous, aujourd'hui, qui avez les moyens d'empêcher cela. Répondez, dites votre vérité, dites votre réalité. Mais surtout, emparez-vous de cette enquête, partagez-la sur les réseaux sociaux, insistez auprès de vos collègues pour qu'ils y répondent, et si vous faites partie d'une organisation, demandez-lui de se mobiliser pour la cause. Il reste 3 semaines pour inverser la tendance, mais soyez-en sûrs. Votre futur dépend de votre capacité à vous engager aujourd'hui.
Bonjour Denis Bajram.
Bonjour.
Alors, donc il y a un message très fort, très clair. Au moment de la sortie du rapport Racine et des 23 préconisations qui étaient proposées, comment avez-vous pu suivre avec l'État? Est-ce qu'il y a eu une possibilité d'être un peu plus entendu, notamment avec l'enquête qui avait été faite avec les États généraux de la bande dessinée?
Déjà, en fait, l'enquête avait provoqué quand même un certain séisme au ministère de la Culture, parce que nous l'avait dit jusqu'à là, ils avaient paralysé à quel point les auteurs de BD étaient des professionnels. Ils nous regardaient un peu comme ils regardent des auteurs de romans qui sont hélas peu professionnels, et la plupart écrivent le week-end en dehors de leur vrai travail. Et ils ont découvert à cette occasion-là l'ampleur de la professionnalisation et aussi évidemment l'ampleur des dégâts qu'elle avait déjà subis. Donc ça a enchaîné un cycle de discussion qui était assez productif, mais il a fallu quand même assez vite réappuyer avec l'aide des syndicats pour faire encore avancer le chantier. Et tout ça a atterri au rapport Lungheretti, qui est sur la bande dessinée, puis son successeur, qui est le rapport Bruno Racine, qui l'a étendu toute la question aux artistes-auteurs. Et hélas, suite à ça, il ne s'est pas passé grand-chose.
Alors, je vous propose que dans le moment de discussion que nous avons, on puisse vraiment mettre des mots sur la situation actuelle des auteurs. Est-ce que vous avez le sentiment que des lignes ont bougé depuis 2015? C'est un peu anticipé sur les résultats, mais est-ce que dans les premières réponses, vous avez quelques indications?
On ne regarde pas les réponses pour l'instant, donc ça, je peux pas parler de l'état de l'enquête. Okay. Et j'allais dire même, serais-je au courant, la qualité d'analyse des statistiques voudrait qu'on attende de voir si notre échantillon est représentatif, etc. Donc franchement, il n'y a pas de conclusion à donner aujourd'hui. Il y a des impressions qu'on a tous avec nos collègues, en discutant, parce qu'ils remontent par les syndicats, etc. Mais voilà, on ne peut pas donner de résultats sur l'enquête elle-même, ce sera vraiment en janvier.
Alors, vous parlez de syndicats. Quels sont les syndicats représentatifs des auteurs et des autrices aujourd'hui?
C'est une vraie question, puisqu'en fait, il n'y a pas de système d'élection professionnelle, contrairement aux salariés. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a un représentatif qui est montré comme tel par le ministère ou par qui voudra. Donc, en fait, historiquement, on avait créé une section destinée au Syndicat national des auteurs compositeurs, le SNAC, donc qui reste aujourd'hui très active. Et puis, depuis, c'est monté la Ligue des auteurs professionnels, assez proche de la Charte, qui est un syndicat d'auteurs jeunesse, et qui, aujourd'hui, a un syndicat qui a volonté de travailler sur l'ensemble du livre, puisqu'en fait, les problèmes des auteurs de BD sont quand même à 80%, 90% communs avec tous les auteurs du livre.
Alors justement, la charte des auteurs jeunesse préconisait des rémunérations lorsqu'il y avait une invitation, soit par un établissement public comme une médiathèque ou par un festival, rémunération en fonction de séances de dédicace, entretien avec le public, avec des classes. Ça manque cruellement au niveau de la bande dessinée.
Alors, on a quand même avancé là-dessus parce qu'on a eu les dédicaces, les séances dédicaces qui sont maintenant rémunérées dans une partie des festivals. Ça a été une des choses qui a été mise en place au moment de l'année de la bande dessinée, qui était une année organisée par le ministère de la Culture. Donc, en fait, on a réussi à aligner partiellement la bande dessinée sur ce qu'avait obtenu la charte pour les auteurs jeunesse. Donc là-dessus, il y a eu un vrai progrès. L'inconvénient, c'est que c'est un progrès qui a l'air spectaculaire, mais qui concerne une petite partie de notre activité. Le gros de nos revenus proviennent normalement de notre travail de création. Et c'est là aujourd'hui que le bât blesse.
Denis Bajram, quelle serait une situation, une décision, un décret qui permettrait vraiment de sortir les artistes auteurs et autrices de la précarité, comme par exemple le statut des intermittents peut le faire pour les musiciens, même s'il y a encore une grande situation de précarité parmi eux?
Oui, j'allais dire sortir de la précarité, c'est un objectif vaste. Améliorer la situation, éviter que ça ne se dégrade, ça serait déjà une priorité. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, un auteur de bande dessinée, il n'a quasiment pas de protection. Le droit du travail ne s'applique pas pour lui, il n'y a pas de chômage, donc il a des protections que le citoyen en général a, mais il n'a pas de protection de travailleur, en fait. Et ce que nous, on demande, c'est que nous soyons considérés comme des travailleurs. Il y a beaucoup d'enjeux derrière ça. Le but n'est pas d'être salarié, parce que la liberté d'expression nécessite un rapport beaucoup moins hiérarchique avec le partenaire qu'est l'éditeur, mais c'est d'arriver quand même à des vraies protections. C'est des protections diverses. En ce moment, par exemple, à l'Assemblée et au Sénat, on discute d'une loi pour la continuité de revenus qui se rapprocherait d'une idée de créer un chômage, une intermittence, quelque chose comme ça, qui permettrait aux auteurs d'avoir, entre les contrats d'édition, la possibilité d'être couvert par l'État, enfin par la collectivité, pour pas être totalement à chaque fois en train de courir après tous les contrats et surtout en cas d'accident pendant un contrat, de pas se retrouver à la rue immédiatement comme c'est le cas aujourd'hui. C'est l'ensemble en fait des normes sociales qui sont, c'est ce que nous on demande, c'est qu'en fait la population des artistes auteurs reviennent dans une certaine norme sociale en France. Ce n'est pas normal que autant de gens soient totalement maintenus dans un système qui ressemble à celui du 19e siècle.
Alors Denis Bajram, est-ce que vous avez fait des comparaisons avec d'autres pays? Dans la première enquête, de nombreux auteurs belges avaient répondu. Comment ça se passe dans les autres pays?
Alors les choses ont pas mal changé en Belgique depuis. La nouvelle enquête nous intéresse beaucoup pour ça, parce qu'on va voir les conséquences de ce que la Belgique a mis en place avec ses auteurs. Là, aujourd'hui, c'est justement difficile à dire parce qu'on n'a pas de chiffres. On peut avoir l'impression qu'un statut est meilleur, moins bon, tant qu'on n'en connaît pas les réelles conséquences économiques et des conséquences sur le travail, c'est difficile à juger. Donc, vraiment, c'est très intéressant. Alors, on espère vraiment que les auteurs belges et suisses vont massivement répondre, pour qu'on puisse vraiment faire une comparaison et voir si, par exemple, ce qu'a fait la Belgique est un vrai plus pour ses créateurs.
Vous avez parlé, évoqué les éditeurs tout à l'heure. Comment se passent aujourd'hui les discussions sur les contrats avec les éditeurs? Dans le livre, on a vu des éditeurs qui faisaient des contrats à 2% de droits d'auteur. Les sœurs Rumbach avaient fait un livre sur les auteurs précaires et qui montrait donc justement cette absence de rémunération et de contrat digne de ce nom. Comment ça se passe pour la bande dessinée?
Pour faire court, la bande dessinée, c'est comme l'ensemble du livre. La seule obligation de l'éditeur, c'est de faire une rémunération proportionnelle aux ventes. Ça ne veut rien dire. 0,1%, c'est proportionnel. Donc, on voit bien que ça dépend d'une sorte d'équilibre, pas de la terreur, mais du fait qu'il y a un moment où des gens continuent à venir bosser pour eux. En plus, quand on dit les éditeurs, c'est un gros raccourci, parce qu'entre un petit éditeur indépendant et une major, il y a des fonctionnements qui sont extrêmement différents. On voit par exemple du côté des éditeurs indépendants, le FEA, leur syndicat, a vraiment essayé de faire un travail pour que le contrat représente mieux un équilibre dans le rapport éditeur-auteur. Par exemple, ils ont arrêté de confisquer le droit de l'auteur, parce que la plupart des contrats signés dans les grandes maisons, c'est 70 ans après la mort, ce qui est la durée de propriété intellectuelle. Au FEA, ça dépend des éditeurs, mais ça peut être 5-10 ans, c'est-à-dire c'est la période d'exploitation réelle de l'éditeur. Et puis si le livre devait marcher, il prend le pari que l'auteur prolongera avec lui parce qu'il le remerciera de son travail, en fait. Donc c'est bien respecter une sorte de confiance entre les deux. C'est pas du tout le cas dans la grande édition où aujourd'hui il y a une captation de la propriété intellectuelle qui est totale dans tous les domaines. Très peu d'auteurs arrivent à ne pas signer les droits dérivés, audiovisuels, etc. Donc si par exemple il y a un succès dans le film, la maison d'édition va capter 50%, même si au départ elle avait investi seulement 2000 euros d'avance sur droit d'auteur et fait un tirage à 300 exemplaires. Donc on voit le législateur, là, devrait faire un vrai travail pour rétablir une proportionnalité entre ce qui est pris par l'éditeur et ce qu'il offre en échange.
Dans la présentation de cette émission, j'avais évoqué les situations au moment où la presse publiait beaucoup de bandes dessinées, et donc il y avait à ce moment-là un paiement à la page, et qui, avec la disparition de beaucoup de revues, s'est transformé en avance sur droit. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel est ce fonctionnement et comment ça se passe pour les auteurs de bandes dessinées avec les différents éditeurs, les gros comme les petits, ou les grands comme les indépendants, c'est plus juste.
C'est bien de revenir au début de la bande dessinée, qui est un phénomène de presse, où beaucoup d'auteurs étaient même salariés de presse souvent, c'est-à-dire qu'ils avaient un salaire et toutes les protections qu'il y avait avec. Dans les années 90, les nouveaux éditeurs qui sont apparus sur le marché sont apparus dans une époque où les journaux disparaissaient, et on fait le pari que tous ces jeunes auteurs qui arrivaient, ils ne pourraient jamais être publiés dans les journaux, et qu'en fait, il allait falloir les publier directement en album. Donc, on est passé d'un système où l'auteur salarié ou pigiste de presse touchait de l'argent, et si par hasard ses pages étaient finalement publiées dans un album à une compilation, le mot est clair, hein, on compile ce qui est paru en presse. Donc, à ce moment-là, il retouchait en plus des droits d'auteur. On est passé de ce système-là à un système où finalement, l'éditeur fait une avance sur les droits d'auteur à venir pour que l'auteur soit dans des conditions de travail correctes. L'inconvénient, c'est que déjà, on perd le fixe initial que représentait le salaire. Donc, les sommes que touchera l'auteur à terme sont toujours moins importantes. Mais surtout, tout ça dépend du marché. C'est-à-dire que si les promesses de vente de l'album sont faibles, l'avance sur droit est faible. Et on est arrivé à un système qui, dans les années 90, permettait aux auteurs en avance sur droit de vivre correctement, à un système aujourd'hui, les avances sur droit sont de plus en plus faibles. Et c'est une situation qui s'effondre. Et alors en plus, surtout, si on fait le bilan de tout ça, quelque part, le travail n'est jamais payé. Puisque c'est l'exploitation des droits intellectuels dans l'album qui est payée. Mais finalement, l'auteur n'est jamais payé pour le travail qu'il fait, il est payé pour les livres qu'il vend. Et on voit bien que cette notion de travailleur que j'avoue depuis le début a été écartée par ce système-là, en fait. Et les autres éditeurs ne se sentent plus responsables des conditions de vie des travailleurs qu'ils ont en face d'eux. On est juste des fournisseurs de contenu dont ils diffusent ces contenus.
Alors, Denis, je peux revenir
sur les éditeurs indépendants.
Oui, oui, bien
évidemment,
sûr.
Évidemment, le système est très différent. On est souvent même face à des éditeurs qui sont aussi pauvres que leurs auteurs. On revient à un point où chacun fait ce qu'il peut pour que ça se passe au mieux. Donc, il y a quelque chose de plus sain, mais dans une précarité généralisée. Donc, c'est pas non plus un système idéal, loin s'en faut, quoi.
Alors, Denis Bajram, vous évoquiez donc ce paiement proportionnel chez les éditeurs et donc ces avances sur droit insuffisantes. Le système américain propose qu'il y ait un paiement pour l'accès aux livres, et qui fait que il y a un montant qui est souvent alors défini avec des agents, mais il y a une autre situation qui permet quand même d'avoir un volume pour que l'éditeur, pour que l'auteur puisse continuer à travailler, mais surtout pour permettre à l'éditeur, il a investi tant, il va falloir qu'il justifie et qu'il se mobilise pour cet investissement. Est-ce qu'il y a une réflexion qui peut être menée en France pour que le droit d'auteur puisse peut-être changer de forme, dans la mesure où beaucoup ils vendent peu de livres et que 1000 ou 2000 exemplaires vendus, c'est difficile de pouvoir après en vivre et de dépasser les avances sur droit.
Alors déjà, le marché américain, il est beaucoup plus grand, parce que le marché anglo-saxon est beaucoup plus grand. C'est toujours difficile de faire des comparaisons avec ce marché-là, parce que assez naturellement, il y aura tout de suite des échelles de 5 à 10 fois plus qui viendront en ligne de compte. Dans le comics américain, c'est très varié, puisqu'on a une partie des auteurs qui gardent la propriété intellectuelle, qui ont des agents et qui négocient des choses, voire des systèmes qui encouragent ça autour de certains éditeurs qui, comme Image, qui se sont créés autour de cette idée-là. Mais la plupart des gens, ils travaillent pour Marvel ou DC Comics, qui là, les salariés, mais gardent la propriété intellectuelle complète des œuvres. Les personnages appartiennent à la maison d'édition, etc. et tout. Donc c'est quelque chose d'extrêmement différent là-dessus. Je ne crois pas qu'en France, il y ait beaucoup d'auteurs qui aient envie de travailler sur des personnages qui ne leur appartiennent pas, ou ceux qui le font, et il y en a, des licences, etc., eux aimeraient bien justement être dans un système salarial beaucoup plus clair, puisque le personnage appartient à l'éditeur, il faudrait qu'ils gagnent très bien leur vie pendant qu'ils travaillent dessus. Pour repenser les choses en France, pour revenir à votre question, les agents, cette question-là, c'est souvent posée, mais un agent qui intervient sur un auteur dans un petit marché a beaucoup de mal à lui-même à gagner sa vie, en fait, c'est difficile. On en viendrait à l'idée de se dire il faudrait qu'il y ait des minimums de paiement, à une époque on disait des prix à la page, mais alors là on rentre dans quelque chose d'extrêmement complexe, puisque en fait, comment imposer des notions économiques, alors que la liberté d'expression, la plus naturelle, oblige à ce que n'importe qui puisse publier presque n'importe quoi s'il en a envie, puisque c'est quand même avant tout le fait de s'exprimer qui compte plus que le reste. À titre personnel, c'est pas une position syndicale ou des EGBD, à titre personnel, moi j'ai l'impression qu'on devrait encadrer en fait l'édition à but lucratif, puisqu'en fait il y a toute partie d'édition indépendante qui est associative, qui n'a pas de but lucratif et à qui on pourrait laisser faire ce qu'elle veut en fait, puisque tout le monde est là pour la cause entre guillemets. Mais l'édition à but lucratif, en effet, à mon opinion, devrait être beaucoup plus encadrée. Si des gens gagnent beaucoup d'argent au global sur une activité économique, les gens qu'ils emploient pour ça, même si c'est un emploi non salarial, devraient avoir des protections. Et on ne peut pas laisser ça comme un marché totalement ouvert. Parce qu'aujourd'hui, le résultat de ce marché totalement ouvert, c'est beaucoup trop de livres que personne ne lit et qui ne rapportent pas grand-chose à grand monde.
Denis Bajram, le CNC a une part sur les ventes des tickets de cinéma. Est-ce qu'on pourrait imaginer un CNL avec une part sur la vente de chaque livre et de chaque bande dessinée, à fortiori?
C'est déjà le cas, puisqu'il se finance en partie sur une taxe versée par les éditeurs, en fait, sur leur chiffre d'affaires. Donc le modèle est relativement proche. Mais il n'y a pas de l'autre côté un modèle de financement là de la création qui générerait un cadre aussi clair que celui de la création de cinématographique en France. Justement, le marché lui reste totalement libéral, à part quelques projets des bourses en gros, que donne le CNL à une partie de la production, alors que dans le cinéma c'est quasiment tous les films qui passent par le système de financement du CNL. Donc, on voit bien que là, l'État avec le CNL, enfin l'État, les pouvoirs publics, la profession, parce que tout le monde est dedans, a une capacité à faire des choix économiques et culturels forts, à orienter réellement, on dirait, l'industrie. Et c'est exactement ce qui nous manque, je pense, par beaucoup de côtés dans l'édition, où cette liberté totale aujourd'hui est complètement j'essaie d'être délicat ça a été
été
par le poids que prennent des grands groupes d'édition et la faiblesse en face de tout petits créateurs que sont les auteurs.
Denis Bajram, quels sont les leviers possibles aujourd'hui pour que les choses changent ? L'enquête, bien sûr, en est une. Vous les avez rappelé l'importance de la participation des auteurs et des autrices. Est-ce qu'il y a d'autres leviers ?
Depuis cet appel, on a eu heureusement beaucoup d'auteurs qui se sont enfin réveillés, donc ça valait le coup.
Super. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres leviers possibles ?
Moi, je reviens déjà à mettre en place ce que proposait le rapport Racine, qui est déjà éclaircir le paysage sur plein de choses. Par exemple, mettre en place des élections professionnelles pour que les auteurs soient représentés par des organisations peu nombreuses et avec des programmes clairs, qu'on puisse justement reconstruire un dialogue social fort avec les éditeurs. Moi, j'attends pas tout obligatoirement des pouvoirs publics, mais il faudrait qu'il y ait un cadre dans lequel on puisse travailler. Proposer justement ça aujourd'hui, moi, très bien. Alors, avec la Ligue, par exemple, la Charte et la DABD et quelques autres, on va se réunir, on va faire proposer un programme de réforme. Mais s'il plaît pas, de l'autre côté, je sais pas, un OGC, au SNAC et une troisième organisation, le ministère, il se retrouve plan-plan, pas savoir. Quoi faire et c'est complètement délétère en fait. Donc c'est à la Ligue, on est très parce que je fais aussi partie de la Ligue, j'étais un des fondateurs. À la Ligue, on est très pour la mise en place d'une représentation syndicale solide, etc. Parce qu'en fait, c'est avant même de faire des propositions, faut que nos propositions puissent être écoutées.
Merci beaucoup, Denis Bajram. Beaucoup d'informations sur le site des États généraux de la bande dessinée, notamment l'enquête de 2015, la nouvelle, les annonces. Répondez, et ça sera vraiment une grande avancée, une nouvelle avancée pour les auteurs et autrices de bande dessinée. Merci, Denis Bajram, d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir éclairé sur la situation des auteurs aujourd'hui et des autrices, bien sûr.
Merci pour votre invitation.
Au revoir.
Au revoir.
Je voudrais faire une sorte de d'intermède, c'est pas le bon mot, parce que, en tout cas, je voudrais vous présenter un livre avant de faire l'hommage à Gwenaël Manac. Il s'agit de Chacal Hebdo, qui est un livre de Dominique Ziegler et de Baladi. Dominique Ziegler est un metteur en scène de théâtre, il est aussi scénariste de bande dessinée. Et ce qui est important, c'est qu'il revendique un art politique, historique, populaire et ludique, dont le centre d'intérêt premier est la question du pouvoir. Baladi, c'est un auteur que vous avez pu entendre sur cette antenne. J'ai présenté un certain nombre de ses livres. C'est un auteur qui a la particularité d'explorer les différentes possibilités narratives de la bande dessinée. Il a ouvert de nombreuses voies. Et donc, il fait partie aussi de ces auteurs qui ne cherchent pas forcément à publier chez des très grands éditeurs, mais qui a un travail constant et qui, il est suisse et a peut-être plus de facilité à publier en Suisse. Mais en tout cas, il a cette aussi certainement... difficulté peut-être à avoir cette reconnaissance que peut permettre une situation claire, comme l'a évoqué Denis Bajram, des relations entre les auteurs et les éditeurs. Le livre, c'est, comme le dit la quatrième de couverture, « Voici l'histoire d'un journal satirique devenu, sous l'action de Petit Malin, un fer de lance de la nouvelle réaction ». Alors, Chacal Hebdo, le lien est direct avec Charlie Hebdo. Et donc, Ziegler et Baladi vont vraiment montrer comment le journal a changé de visage depuis sa création par le professeur Choron et par Cavana. Et comment Philippe Val a récupéré le journal, comment il a principalement organisé sa gestion pour qu'il puisse bien évidemment toucher des revenus conséquents de son activité. Il y a donc cette partie qui est largement détaillée et qui montre comment sa position de rédacteur en chef de Charlie Hebdo a été une malchance certaine pour ce journal qui a perdu complètement son âme. Pour présenter et expliquer et donner un exemple, je vais vous lire une double page. On a une partie où on voit Philippe Val en train d'écrire un article qui se veut cinglant, et puis comment se passe sa position au niveau de la rédaction. Citation. « Il existe dans notre pays une espèce d'ectoplasme en chemise blanche, autoproclamé philosophe, s'il vous plaît. » Sans doute aime-t-il à philosopher avec ses amis milliardaires sur son yacht privé. Monsieur B. Louis Lavette se dit de gauche, à gauche du château du roi du Maroc sans doute. Ha ha ha, c'est envoyé ça. Pan dans ta face, Bertrand Louis Lavette. État d'esprit du rédacteur en chef. Avec ses auteurs. Il est avec des auteurs, donc j'imagine, dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Il dit « Les ventes stagnent. Allez les mecs, encore plus de provoque, du cul, du crade, de l'irrespect. C'est notre marque de fabrique. Abat tous les pouvoirs. Et t'as entendu que Patrice Fion avait été arrêté pour pédophilie dans son école ? Patrice qui ? Patrice Fion, Fion et Ville, quoi. » C'était le partenaire de Philippe Val, Fion et Val, dans des sketchs de chansonniers qui avaient beaucoup de réussite et qui étaient très cinglants. Ah oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah bah il est en taule pour abus sexuels sur ses élèves. Ah oui, j'ai vaguement entendu ça, oui. J'ai fait un dessin là-dessus. Ah non! je ne veux pas aborder ce sujet. Bah, si on veut critiquer tout le monde, c'est aussi les anciens potes qui... C'était pas un pote. Tant de mauvaises foi sont déjà bien exprimées dans ces deux pages, et Dominique Ziegler et Baladi vont vraiment détailler toute cette dérive complète de Charlie Hebdo, qui rejoint par exemple certaines situations et positions que avait eu Mix et Remix par rapport au fonctionnement de Charlie. C'est tout à fait intéressant de voir comment cette personne, Philippe Val, qui est passé après à la direction de France Inter avec des appuis politiques et pas vraiment des appuis de gauche, et pu ainsi tant marquer le parcours de Charlie Hebdo, intitulé vraiment pour l'occasion par Ziegler et Baladi, Chacal Hebdo. Alors c'est édité par un éditeur indépendant, The Uchi Kuchi, qui fait un gros travail de fond. Et c'est la ligne éditoriale souvent de ces maisons d'édition de plus petite taille, mais qui ont une conception de l'édition tout à fait remarquable. Chacal Hebdo, Ziegler, Baladi, 21 euros, c'est publié par The Uchi Kuchi. Virgule. Je l'évoquais dans le chapeau de cette émission, Gwenaël Manac est décédé récemment et je tenais à lui rendre hommage pour son livre Les pierres de famille, qui traitait admirablement de ces masculinités toxiques. Donc voici son entretien qui avait été réalisé en février 2023 au moment de la sortie du livre. Le décalage fantastique du récit est ce point de vue qui permet au lecteur d'être dans une situation qui n'est pas celle de notre réalité et qui pourtant, au fil des pages, va permettre de l'éclairer de façon lumineuse. Dans Pierre de famille, Gwenaël Manac va imaginer une calcification, une maladie étrange qui va toucher de nombreux humains, quasi généralement des hommes, et qui vont être un peu victimes de leur patriarcat. Et donc c'est cette calcification qui fait de ces hommes des Moai va complètement envahir l'espace public, l'espace politique, et ainsi au fur et à mesure que on va suivre deux frères d'une famille, Camille et Aniel, qui vont s'engager dans les nouvelles structures de soins mises en place pour tenter d'apaiser les familles et les personnes atteintes de ce mal étrange. Gwenaël Manac, donc, dans un récit d'ampleur, il fait 176 pages, avec un dessin qui rappelle ce tracé très anguleux des Moai, qui va donner ainsi à cette histoire une façon d'attaquer un peu de front la question du patriarcat, comment le déconstruire, et au fur et à mesure que le récit avance, le lecteur ainsi se plonge dans un retour et une mise en perspective de nos sociétés contemporaines et de cette présence très insistante et prégnante de cette virilité active chez de nombreux hommes. Gwenaël Manac est avec nous pour nous parler et discuter. On va évoquer bien sûr les processus de création de ce récit sur cette question essentielle de la masculinité. Bonjour Gwenaël Manac.
Bonjour.
Alors, comment est née ces pierres de famille et ces figures de ces statues de l'île de Pâques qui sont quand même une sorte de représentation exceptionnelle et qui est dans notre imaginaire collectif.
Oui, bah d'ailleurs c'est peut-être parti de ça. Je pense que ça a commencé par des questionnements personnels et puis un peu une à force de me confronter dans ma vie personnelle à des choses que j'arrivais pas à comprendre et notamment à des personnes que j'avais l'impression de voir emmurées dans une forme de d'orgueil viril ou en tout cas dans une espèce d'injonction qui se faisait à eux-mêmes de devoir garder la face. Et du coup, l'image qui m'était venue, c'était des statues. Et aussi un processus qui est lent de calcification, donc de durcissement, de au fur et à mesure que les difficultés arrivent, de au fur et à mesure que les reproches arrivent, que les gens nous font des reproches, et qu'il faut quand même garder la face, on va performer quelque chose pour rester solide et on va se durcir du coup. Et les statues de l'île de Pâques, en fait, bah, comme vous l'avez dit juste à l'instant, c'est une histoire d'imaginaire collectif aussi. C'est-à-dire que comme j'avais en tête cette phrase de garder la face et que les statues de l'île de Pâques sont des immenses faces, en fait, il n'y a quasiment plus que la face qui reste. Il y a des bras, des jambes, mais elles sont minuscules et c'est surtout cette belle tête immense et très digne. Et je trouve que, ça venait me rendre service à plusieurs endroits, notamment voilà, c'est assez digne, une belle fierté. Les statues de Pâques sont vraiment majestueuses. Et en même temps, en plus, elles ont perdu leurs yeux au fur et à mesure du temps, apparemment. Et du coup, maintenant, il y a quelque chose d'assez éteint, en tout cas d'assez austère. Donc ça correspondait bien à ce que je cherchais. Et puis, bon, je pense que je suis un peu obligé de reconnaître que l'usage du Moai fait par Manu Larsonnet dans Blast a dû me marquer quelque part. En tout cas, j'y ai pas pensé activement, mais aujourd'hui, avec le recul, c'est obligé que ça ait joué.
Alors pourtant, Gwenaël Manac, chez Larsonnet, il y a ces statues alors qui sont plus lointaines dans le récit, qui ouais. Hantent donc le personnage de Manu Larsonnet. Mais il y a un dessin qui est très rond en opposition à celui de Larsonnet. Là, on a le sentiment, en tout cas, que vous avez adapté votre dessin à ce caractère un peu tendu, vif, d'un tracé, d'un visage d'un Moai de l'île de Pâques.
Ouais, j'avais envie que mon dessin puisse marquer la différence entre ceux qui sont encore en mouvement et ceux qui sont en train de se calcifier. Et pour le détail technique, j'ai gratté directement les murs des endroits où je travaillais, donc je cherchais des pierres qui soient apparentes, et je prenais ma feuille directement à ma planche de dessin, et j'allais gratter avec une ligne graphite sur le mur, de manière à avoir vraiment une texture caillou directement sur la page. Ça, c'est parce que j'avais besoin qu'on puisse comprendre que la peau, même si certains personnages n'avaient pas encore tout à fait les aspects de statue, qu'ils aient déjà une peau qui devient un peu dure, le cuir solide, comme on dit, version un peu plus pathologique. Et oui, non, Manu Larsonnet, je pense que c'est plus après coup, a posteriori, que j'analyse cette filiation, mais en tout cas, c'était plutôt pour le côté garder la face. Et puis aussi, peut-être que dans l'imaginaire collectif, l'île de Pâques, il y a quelques ouvrages qui ont été écrits sur le lien entre l'île de Pâques et un effondrement potentiel de cette civilisation. Et en tout cas, il y a une association d'idées entre l'île de Pâques, cette civilisation qui a construit tout un tas de statues comme une forme d'obsession et qui s'est ensuite éteinte. Bon, alors après, dans les faits, quand on vérifie, c'est pour plein d'autres raisons, mais en tout cas, il y avait un lien pour moi et avec un peu un monde qui se met la tête dans le mur ou en tout cas qui se met la tête dans quelque chose d'une forme d'obsession qui l'amène un peu, pas forcément à sa perte, mais en tout cas à plus de violence et plus de difficultés, quoi.
Alors, dans votre récit, Gwenaël Manac, on est avec une famille, donc le grand-père est déjà donc une statue figée depuis longtemps, Paul le père entame sa calcification, et Camille et Agnel, les deux fils, vont essayer d'apaiser les choses et vont travailler donc à ce centre de soins. Comment s'est construit votre histoire? Est-ce qu'il y a vous avez trouvé la totalité du récit, de la trame avant de démarrer le dessin, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus intriqué entre dessin et récit?
Ben justement, avant cet ouvrage, j'avais l'habitude de travailler plutôt bien séparément, en écrivant un script assez jalonné, et ensuite en mettant en découpage, et le dessin ensuite venait juste mettre en lumière tout ça. Et sur celle-ci, j'avais plus envie justement d'intriquer les deux. Donc j'ai construit l'histoire comme un peu des grands points de passage que je savais que je voulais mettre dans l'histoire. Je notais quand il y avait des scènes qui me venaient comme pouvant avoir lieu plus tard dans l'histoire, je les notais à part, mais je les inscrivais pas dans une trame. Et donc j'avais comme ça quelques points de passage obligés dans mon histoire, et la suite c'est un peu écrit au fur et à mesure du découpage. Du coup, il y a plein de choses qui se sont passées sans que je sois au courant. En fait, enfin, bien sûr que j'étais au courant finalement, mais en tout cas, c'est quelque part les personnages se sont autodéterminés d'une certaine manière au fur et à mesure que j'ai dessiné. Ouais. Il y a un peu comme quelque chose comme ça qui s'est passé. Ouais.
Comment avez-vous travaillé les dialogues? Parce qu'il y a vraiment, on est dans leur quotidien, le quotidien de cette famille, avec la grand-mère, avec au centre de soins, la façon dont on met en place une thérapie pour essayer d'apaiser ceux qui sont en train de se calcifier. Comment est-ce que vous voulez les lisez à haute voix? Est-ce que vous les avez repris une fois l'ensemble dessiné? Comment travaillez-vous les dialogues?
Je pense que c'est un petit cinéma intérieur que je me fais, c'est-à-dire que je place les décors, je place les enjeux, je place aussi les caractères dans ma tête, et aussi quelque part comme j'ai un point de passage derrière, je sais que je veux aller à tel endroit, et quand ça se passe bien, c'est-à-dire que le mobile du personnage qui finalement au bout d'un moment c'est plus de mon ressort, c'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné les personnages ont leurs propres intentions, et moi j'essaie juste de les articuler. Quand cette intention-là, elle est raccord avec là où je veux les emmener, bah, ça se fait tout seul. Donc la scène se déroule, et puis j'ai juste à la montrer au lecteur. Mais il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai envie d'emmener le personnage à un endroit, et puis finalement, il est un peu réticent, c'est plus difficile, ou alors les dialogues que je voudrais leur donner collent pas du tout avec leur comportement, et avec un comportement qui serait cohérent dans cette scène-là. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à traiter des sujets, à traiter des scènes que j'avais pas du tout prévues. Puis typiquement, par exemple, la notion de soins. Je savais que je voulais qu'il y ait un dispensaire dans lequel on essaie de prendre en charge ceux qui sont en train de se calcifier. Mais déjà, à la base, je savais pas forcément qu'un des deux frères allait y travailler. Et ensuite, je savais pas qu'il y allait avoir des enjeux internes à cette même structure, qu'il allait avoir des accords entre les employés, qu'il allait avoir toute une problématique autour de qu'est-ce que ça veut dire de soigner quelqu'un, est-ce que soigner c'est forcément guérir, est-ce que guérir et soigner c'est la même chose, la notion aussi d'une forme de résultat à atteindre dans le soin, où en fait c'est des problématiques qui ont été amenées par les personnages et par le fait que c'est des situations qui étaient trop complexe pour être résolu comme je l'avais imaginé à la base avant d'y réfléchir en fait. Donc oui, il y a plutôt un truc un peu organique, et d'ailleurs assez agréable, je trouve.
Finalement, ce centre de soins, Gwenaël Manac, c'est une façon de montrer que la virilité, le patriarcat, la flatterie permanente de ces hommes à cette place-là, ce lien entre stature et statut, est finalement très ancré et très difficile à déconstruire.
Ouais, tout à fait. Peut-être que ce qui s'est aussi passé en écriture, c'est que d'abord j'ai commencé à écrire comme quelque chose comme un observateur qui observait un phénomène extérieur, et qu'en fait comme l'écriture était un processus long, et qu'en plus j'avais eu l'idée un an avant de m'y mettre, c'est-à-dire que j'étais sur un précédent livre, et ben finalement je me suis rendu compte que c'était quelque chose de subtil et que j'en étais moi-même imprégné en tant qu'homme, ayant été élevé comme un homme, et avec tout un tas de manières de me valoriser, de manières de chercher ma place, et d'une manière de m'identifier aussi à certains comportements. Et que c'est plein de petites choses. Alors tout n'est pas grave, tout n'est pas source de violence, mais il y a plein de petites choses qui nous amènent, qui nous font tendre vers un comportement et que même si je pense que tout le monde a une fierté, y compris les femmes, la manière que les hommes ont de l'articuler, et la manière que pour les hommes de se valoriser dans des comportements, dans des performances et dans justement cette idée de devoir garder la face. En tout cas dans les stéréotypes de ce qu'on nous propose comme comportement. On en est tous un petit peu imprégnés, je pense. Chacun à sa manière, mais c'était un peu l'envie que j'avais, c'était de montrer le côté ordinaire et le côté le côté ordinaire de ces choses-là, ouais.
Gwenaël Manac, je vous propose un second morceau donc de ce que vous avez choisi. Et on se retrouve donc dans quelques minutes et on va parler un peu plus dessin. A tout de suite. Ondes de Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Gwenaël Manac pour son livre Pierres de famille, Les pierres de famille. Et nous évoquons maintenant la partie dessin. Comment vous avez évoqué cette utilisation de la pierre naturelle pour donner une matière à ces statues? Qu'est-ce que ça représente de les dessiner, par exemple, toutes les premières pages où elles envahissent de nombreux endroits de la ville, elles sont à l'intérieur des maisons de façon très imposante. Qu'est-ce qu'on ressent quand on dessine ces cases?
Je pense qu'il y a d'abord quelque chose d'assez agréable, parce que c'est des statues, bah, comme je le disais tout à l'heure, qui sont assez majestueuses. Il y a quelque chose d'assez agréable à les dessiner, d'assez reposant, parce que c'est un motif, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Enfin, elles sont toutes identiques, donc il y a un certain plaisir à les dessiner, je pense. C'est des grandes lignes, il y a cette arête du nez qui est très longue, et du coup, quand en plus on veut essayer d'accentuer leur hauteur, on va étirer cette ligne-là. Et moi, j'ai un dessin qui vient plutôt de quelque chose d'assez technique et j'ai passé beaucoup de temps à, enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner les reliefs en général. enfin les profondeurs, etc., et les volumes. Et du coup, c'est vrai que dessiner ces statues, c'était un plaisir de un peu de sculpteur. C'est-à-dire que je m'amusais à du coup leur donner une inclinaison, il s'agissait aussi de suggérer qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils sont intégrés à leur environnement, un peu comme on peut les voir sur l'île de Pâques où en fait ils sont un peu immergés dans le sol. Donc là, en l'occurrence, c'était plutôt immergé dans les murs, immergé dans les façades. Donc il y avait un plaisir un peu de sculpteur à les déplacer dans l'espace et à trouver une manière qu'ils allaient pouvoir être, d'avoir l'air à la fois complètement indissociable de leur espace, complètement incrusté, et à la fois lourd, à la fois un peu en naufrage. C'est quelque chose un peu en naufrage, c'est-à-dire que je cherchais souvent à les mettre un peu en deux billets, ou en tout cas comme s'ils étaient en train de s'affaisser dans leur ciment.
Gwenaël Manac, quel dessinateur êtes-vous? Comment êtes-vous sur votre table à dessin? Parce que c'est un dessin qui est quand même à l'énergie. Comment ça se passe? Vous êtes debout à y aller, ou au contraire, il y a une retenue, il y a un geste qui s'arrête rapidement pour pas détailler à l'excès?
Je pense que c'est un problème que je peux avoir de détailler à l'excès. Donc je pense que je me surveille en dessinant. Et je pense que j'ai beaucoup d'admiration pour des dessinateurs qui vont être plutôt épurés. Je suis beaucoup influencé par le manga qui pour le coup est très dynamique, même s'il est moins épuré. Mais en tout cas, la dynamique et l'épure, c'est des choses qui m'intéressent et j'ai envie d'aller vers ça. Mais spontanément, en tout cas, je viens pas d'un dessin comme ça. Je vais plutôt d'un dessin chargé. Dans le détail, sur lequel je peux passer des heures. Donc là, ce qui peut se passer, donc je fais une esquisse qui est assez vivante. Je prends une feuille de brouillon, je prends un crayon de couleur, d'abord un crayon de couleur orange, et là je vais remplir la page d'une foule de traits. Je vais faire des bonhommes patates, et le but c'est d'avoir vraiment 0% de détail, et je vais placer les compositions, les perspectives. Si ce trait orange ne me convient pas tout à fait, je viens corriger avec un trait vert. Donc un fond de couleur vert foncé qui va venir, que visuellement je peux le superposer à cette première esquisse orange. Ensuite je vais décalquer ça, donc ça c'est une étape qui prend très peu de temps normalement. Le but c'est vraiment de travailler le geste et vraiment de justement venir contrecarrer moi ma tendance au détail et à la propreté. Et je viens superposer à ce brouillon là, je viens superposer la feuille définitive sur laquelle je fais une esquisse avec un petit crétarium rouge, donc quelque chose d'assez léger, mais qui me permet juste de placer un peu mieux les détails, et puis surtout de reporter ce que j'ai en dessous. Et une fois que l'esquisse rouge est faite, là, je fais le dessin définitif. Alors, je peux pas vraiment appeler ça un ancrage, parce que c'est du crayon, mais ça ressemble à un ancrage, dans le sens où c'est le dernier trait, quoi. Et donc, j'utilise un crétarium gras, et je viens dessiner. Et à ce moment-là, effectivement, comme j'essaye de encore une fois de venir m'obliger à l'épure. Et une des techniques que j'ai trouvées, c'est donc avec mon trait, je fais pas du tout d'ombre. Et je place des ombres avec des formes géométriques que j'ai découpées dans du papier. Donc il faut s'imaginer un peu des pochoirs, de petites formes géométriques, des petits triangles, des petits ronds. Et du coup, ces triangles et ces ronds, je vais venir estomper le crayon, mais à travers ces pochoirs, donc une forme de. Avec mon pouce, je viens frotter le dessin pour créer une zone de gris, mais dans la forme prédéfinie du triangle et du rond, il y a des losanges, il y a plein de choses. Et ça m'oblige, en fait, à faire des ombres simplifiées, alors que moi, j'ai tendance à venir travailler en détail le relief d'une capuche, le relief d'un truc, qui ensuite, pour moi, ont tendance à trop figer le dessin. Donc, pour garder une dynamique, je m'oblige à faire les ombres à travers des pochoirs. Et ça participe des volumes que je laisse. Alors finalement, je trouve qu'au final, vu qu'il y a les couleurs, ça se voit pas beaucoup, ces formes géométriques, on peut les voir à des moments, mais elles se voient plus trop. Et moi, elles me permettent de, à la fois, donner un relief auquel je tiens, et à la fois, m'obliger à une forme de pure. Et effectivement, par contre, pour vous paraphraser, je travaille debout. Donc ça participe aussi, je pense, peut-être d'une mobilité que j'essaie d'avoir. Voilà, je pense avoir fait le tour de mon processus.
C'était très bien. Et Pour la mise en couleur.
C'est... Pour la mise en couleur, c'était un petit naufrage à l'échelle de ce livre. C'est que je m'étais mis en tête que j'allais, comme d'autres dessinateurs un peu virtuoses, que j'allais faire les couleurs à la main, et en tout cas que j'allais faire les premiers aplats de couleurs à l'aquarelle sur du papier. Et donc j'allais utiliser un peu la méthode traditionnelle des bleus, c'est-à-dire que j'allais imprimer mon dessin en bleu sur un papier épais et que j'allais pouvoir faire les aquarelles directement dessus. Et en fait, c'est arrivé au bout de 2 ans de travail où j'étais fatigué et où en fait aussi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alors soit j'accepte pas assez mes erreurs, soit j'en fais trop, ça va dépendre du point de vue, mais en tout cas j'étais pas du tout content de ça. Donc finalement j'ai fait marche arrière et j'ai recommencé les 20 pages que j'avais déjà faites, je les ai recommencées depuis le début. Et cette fois-ci j'ai fait tout à l'ordinateur. J'ai scanné une série de tâches que j'avais gardées, une série de tâches pour pouvoir faire justement des ombres ou des brouillards ou des textures. J'ai tout fait à l'ordinateur.
Qu'est-ce que va permettre d'avoir fait les pierres de famille? Comment se dégage l'horizon pour vos livres à venir, Gwenaël Manac?
Sur le plan du dessin, alors?
Bah, pas forcément, sur le plan du récit, parce que le récit est quand même essentiel aussi dans ce livre.
Ouais. Et ben, je pense que comme beaucoup d'auteurs, j'ai eu une phase un peu de grand questionnement, parce que quand le livre sort, on a toujours un peu de temps avant de recevoir les retours des lecteurs, et il y a toujours un moment de doute où on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai passé autant de temps à faire ça, etc. Et aujourd'hui, je me sens plus attiré vers l'écriture. En tout cas, je sais que sur les pierres de famille, j'ai pris plus de plaisir à l'écriture qu'au dessin. Donc en tout cas, j'ai envie de travailler l'écriture. Le dessin est toujours quelque chose d'agréable et un moment un peu méditatif que j'aime beaucoup, mais je sais pas quelle place il aura dans mes prochaines histoires ou prochains projets. Je pense que j'ai encore envie de le mettre au service du propos. Comme j'ai pu le faire par le passé, j'ai fait un documentaire avec mon frère qui est journaliste. Et à ce moment-là, j'ai vraiment épuré mon dessin, j'ai enlevé beaucoup de choses pour qu'il soit plus simple à la fois à l'œil et à la fois à faire au travail, c'est-à-dire qu'il mette moins de temps à être fait et à la fois qu'il soit beaucoup plus simple à lire et qu'il y ait moins de place entre guillemets à la contemplation, notamment pour un documentaire. J'avais l'impression que c'était vers ça qu'il fallait que j'aille. Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de l'épurer plus, mais en tout cas j'ai envie qu'il soit au service de mon propos, ouais. Donc on verra, techniquement on verra ce que je vais faire. J'aime toujours beaucoup travailler comme je l'ai fait. J'ai envie de m'éloigner de l'ordinateur le plus possible. Et comme je suis attaché à la couleur, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais ces temps-ci, je travaille beaucoup au crayon de couleur. Donc à voir si pour un prochain récit long, je décide de travailler comme ça. En tout cas, il y a plein de choses possibles.
Merci beaucoup, Gwenaël Manac. Je vais rappeler les références de votre livre. Les pierres de famille, donc, c'est publié par les éditions 6 pieds sous terre et les 176 pages de ce livre sont au prix de 26 euros. Les éditions 6 pieds sous terre ont fait une réédition des pierres de famille cette année. Il reste des exemplaires. Vous pouvez, par leur biais de leur site internet, commander. Et c'est vraiment un grand livre. Merci Fabien pour cette technique. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée, c'est Daria Schmidt qui sera à l'antenne. Et vous verrez, c'est une autrice exceptionnelle. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.